Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, mobilisation de soutien aux accompagnants des élèves en situation de handicap. Un reportage sur la nouvelle exposition à voir au musée de Bretagne, Mourir, toute une histoire. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview pour annoncer une course solidaire avec Action contre la faim. Et la recommandation du jour, deux événements à vivre durant le week-end au Japon et la tête dans les livres. Bienvenue dans l'Arène. Allez, on commence l'émission d'information locale avec l'info du jour, une que j'ai sélectionnée parmi d'autres dans la presse locale. Et aujourd'hui, on parle de la mobilisation de soutien aux AESH dans le département. Les AESH, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap. Ce vendredi 15 mars, 10 écoles de l'agglomération rennaise étaient mobilisées. Des enseignants, des parents d'élèves réunis pour dénoncer la pénurie d'AESH. Donc, la scolarisation d'une centaine d'enfants en situation de handicap serait compromise. Et malgré quelques recrutements récents, il manque 600 postes d'AESH en Ille-et-Vilaine. C'est le chiffre avancé par la porte-parole de la mobilisation. Et ce sont donc au moins autant d'enfants qui manquent d'un accompagnant, voire plus à la rentrée en septembre 2023. On se rappelle qu'il était question de 1000 enfants concernés par ce problème. Cette pénurie, c'est en fait un fardeau qui repose donc sur les épaules des enseignants et in fine sur l'ensemble des enfants scolarisés. Il est donc impératif de mettre les moyens pour que l'école inclusive fonctionne bien, résume un père de famille présent au rassemblement de ce vendredi et qu'on lit dans un article de France 3 Bretagne. On rappelle que l'école inclusive elle est poussée politiquement depuis une loi sur le sujet en 2005 et donc chaque année, les demandes d'accompagnement elles augmentent de 15% dans le département. Pour recruter les personnes mobilisées, souligne la nécessaire revalorisation des salaires. Le salaire d'un AESH, c'est environ 850 euros par mois, car ce sont des temps partiels. Mais les récentes annonces de réduction budgétaire dans l'éducation nationale, 700 millions, on le rappelle, elles ne rassurent pas les parents d'élèves et semblent rendre cette revalorisation un peu difficile. Les politiques d'inclusion en faveur des personnes handicapées vont par ailleurs être rabotées de 50 millions d'euros. Allez, après cette info, on passe au reportage du jour. Et direction les Champs Libres à Rennes, où le musée de Bretagne accueille une nouvelle exposition. Mourir, quelle histoire, c'est à voir du samedi 16 mars au 22 septembre. Un parcours qui a été conçu par l'abbaye de Daoulas en Finistère, mais aussi par le musée de Bretagne. Et à travers de multiples œuvres et témoignages, vous allez plonger dans la diversité des pratiques culturelles liées aux rituels funéraires. Plusieurs rendez-vous sont proposés autour de cette exposition, notamment au printemps, avec des visites, des ateliers, des projections, mais aussi des conférences. Le détail est à retrouver en ligne sur le site musée-bretagne.fr.
Je connais deux personnes qui sont mortes dans ma vie.
Et c'est quand on est très vieux, ben après on s'endort et après on revient à plus âgé.
Quelques autres informations pratiques avant de vous laisser découvrir l'exposition.
C'est Corinne Poulain, la directrice des Champs Libres.
Depuis maintenant 2 ans, à chaque fois que nous ouvrons une exposition événement, et c'est le cas avec Mourir, quelle histoire, nous choisissons de mettre les Champs Libres aux couleurs de cette exposition, faire une forme de week-end inaugural. Et donc tout le week-end, les Champs Libres vont se mettre en fête, une vraie fête des morts à la sauce Champs Libres, pour accompagner l'ouverture de cette passionnante exposition.
Et ce week-end inaugural, c'est samedi 16 et dimanche 17 mars. Au programme, deux rencontres le samedi sur les rites funéraires et la mort au cinéma, une projection le dimanche, mais aussi une fresque participative, des ateliers de coiffure végétale et de maquillage, des visites, des contes, un atelier photo spirit, et tout ça c'est gratuit.
On va au paradis quand on est mort. Là-bas on est gentil, on se parle gentiment. On se prête les choses.
Si on est très méchant, ben on va dans l'enfer.
Peut-être qu'il y a de la lave, des cailloux et des pièges.
Je crois qu'effectivement, là-haut, il y a quelque chose au-dessus de nous.
moi je dis c'est peut-être une étoile, quelqu'un qui veille.
Il y a des signes, des fois on ressent un frisson, ou on entend des bruits. Ils ne sont pas tout le temps là, hein, ils n'ont pas que ça à faire, mais des fois ils viennent comme ça faire des petits signes. Coucou, je suis là, et après ils repartent.
Allez, visite de l'exposition avec Laurence Prodhomme, conservatrice au Musée de Bretagne, et Edith Joseph, elle est responsable des expositions pour Chemin du patrimoine dans le Finistère.
Et ici, ce qu'on a souhaité faire avec Laurence, c'est mettre les personnes face à la question de qu'est-ce qu'il y a après, mais en les confrontant à des très très jeunes enfants et à des personnes très âgées, parce que c'est principalement les personnes qu'on désigne comme ayant un tabou de sujet par rapport à la mort. Je vous décris brièvement notre pensée, la façon dont on a réfléchi pour cette exposition, qui est thématique, qui n'est pas chronologique, qui n'est pas ancrée dans une géographie qui est celle de la Bretagne, bien sûr, et du monde occidental. Mais on a surtout cherché, puisque nous, on est plus spécialistes, si vous voulez, de l'interculturalité avec les cultures extra-européennes qu'on travaille beaucoup à l'abbaye de Daoulas. Et la question qu'on s'est posée, c'est quel est le rapport des vivants à la mort et aux morts? Et donc, on a réussi à détacher trois grandes problématiques qui sont des plus grands dénominateurs communs, qui sont liés à toutes les sociétés humaines, parce qu'il n'y a aucune société humaine depuis le néolithique, même avant, puisqu'on n'a pas encore forcément les traces archéologiques, qui n'a pas des rituels culturels liés à la mort et aux morts. Donc, on a trouvé trois grandes façons d'agir. C'est celle de l'attachement. Nous allons avoir une série de rituels qui nous permet de nous détacher et des rituels qui nous permettent de garder le lien, en fait, et rétablir les liens entre morts et vivants. Parce que ce que nous disaient souvent nos conseillers scientifiques, c'est qu'il est important que les morts restent à la place des morts et les vivants retournent à la place des vivants.
Quelque chose qui est par contre très important et qui va couvrir tout au long de l'exposition, c'est qu'on a toujours une approche contemporaine aussi de ces rites. Alors sous la forme d'entretiens, soit avec des professionnels, un thanatopracteur, un représentant du culte musulman, du culte juif, de la religion catholique, etc. Des témoignages de personnes qui travaillent dans les cimetières, enfin voilà. Et puis il y a trois espaces qui s'appellent « Questions d'époque ». Qui sont le résultat des membres du conseil scientifique avec lesquels on a travaillé et qui répondent tour à tour en fonction de leur discipline, donc deux historiens, une philosophe, et un sociologue, et qui répondent à la même question. La première dans cet espace-là étant « Que fait-on de nos limites ?»
Aller vers le monde des morts ne se fait pas en un instant, il s'agit, pourrait-on dire, d'un déplacement, d'un voyage. Ainsi, dans nombre de cultures, donne-t-on aux morts un pécule qui lui permettra de franchir un péage, mais aussi de la nourriture.
Alors la notion de purgatoire chez les catholiques offre un bon exemple de la façon dont les représentations de l'au-delà évoluent au cours du temps. Le purgatoire est une étape au cours de laquelle les âmes se purifient afin d'être dignes d'entrer au paradis. C'est une notion qui est née au Moyen-Âge, qui décline au XVIIIe siècle, avant de connaître un spectaculaire renouveau au XIXe siècle, puis de s'éclipser au cours du XXe.
On vient d'entendre successivement Patrick Baudry, qui est sociologue, et Samuel Jiquel, historien.
Dans cette vitrine qui correspond à la première section de l'exposition, on s'intéresse aux soins du mort. Tout le monde prend soin de son mort. Moi, je vous présenterai un objet. Alors là, on est en Amérique du Sud, on est dans la zone amazonienne. Donc on est dans une société chamanique où on communique avec les esprits pour s'assurer une paix. Le chaman porte le manteau, fait les funérailles avec, et pour préparer le corps à son passage dans le monde de l'invisible, eh bien, il va charger ce manteau grâce à des rituels. Et une fois ce manteau chargé, il va pouvoir disposer le corps du défunt dedans. Et ainsi, son corps pourra accompagner son âme dans la zone de l'invisible.
Derrière vous, pour ceux qui sont ici, nous avons sélectionné un certain nombre de photographies mortuaires. Ça a été un gros débat. Alors moi, j'ai beaucoup tenu à ce qu'on présente ces photographies parce qu'elles sont très, très nombreuses dans nos fonds photographiques. C'est une pratique qui a commencé avec l'invention de la photographie. Donc il y a des daguerréotypes qui représentent des personnes mortes sur leur lit de mort, et qui a été utilisée très largement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même un peu plus tardivement dans certains studios photos.
Alors pourquoi je tenais moi à ces images-là, que l'on a parfois du mal à regarder parce qu'il s'agit essentiellement d'enfants, clairement, parce que c'était un support coûteux pour un certain nombre de personnes. Et c'est quelque chose que les familles vont faire justement pour garder le souvenir de cet enfant. Et c'est tout sauf morbide, en fait. C'est vraiment un hommage rendu à la personne. Les enfants sont toujours présentés de manière flatteuse, entre guillemets, avec tout un décorum de fleurs, de signes religieux éventuellement, et positionnés de manière à présenter une image plutôt positive, en fait, qui même parfois est troublante, parce qu'on ne sait pas si les enfants dorment ou s'ils sont effectivement décédés. Le cheminement d'exposition reprend le cheminement de chacun, enfin, on peut supposer en tous les cas, et espérer au moment d'un décès. Et donc là, la première partie évoque ce que l'on fait au corps lui-même, quel traitement on lui inflige. Et puis après, il y a cette idée de déplacement, puisqu'on va forcément se déplacer, que ce soit pour une inhumation ou une crémation, on va se déplacer. Alors ici, on a quelques objets qui n'étaient pas présentés à Daoulas, qui est ce catafalque.
Un catafalque, c'est une estrade funéraire sur laquelle on pose le cercueil.
Qui a été restauré uniquement pour l'exposition, et sur lequel, tout comme cette chasuble, donc une pièce textile du XVIIIe siècle, très rare quand même en Bretagne aussi, et sur lequel on retrouve des motifs que l'on va retrouver tout au long en fait, de l'exposition, qui sont donc les tibias croisés avec le crâne, parfois le crâne au-dessus, et puis sur la chasuble, on retrouve tous les signes, les larmes du Christ également.
C'était important aussi pour nous de ramener de la contextualisation, parce que les objets dans les vitrines, ils sont très beaux, mais ils ne bougent pas, et ces pratiques funéraires, elles sont extrêmement vivantes. Et là, vous allez voir aussi que... Il y a des sociétés dans lesquelles on a des pratiques beaucoup plus festives en termes de funérailles, comme les pallbearers du Ghana.
On a évoqué tout à l'heure l'idée du cheminement intellectuel, mais il y a aussi un cheminement physique. Et c'est pourquoi on a présenté ce très beau corbillard. Lui, c'était un corbillard municipal qui était utilisé dans la commune de Vignoc, et il a été utilisé jusqu'aux années 1970. Ça permet aussi d'évoquer l'origine sociale en fait, des individus. Aujourd'hui, il y a encore des classes dans les trains, et il y avait des classes d'enterrement aussi, qui allaient de la première à la sixième classe. Donc la première classe, c'était l'enterrement très très riche, où les chevaux avaient un habit particulier, où il y avait un officiant comme celui qui est présenté dans la vitrine là-bas, avec un corbillard extrêmement décoré. Et puis, moins on avait d'argent, et plus on finissait avec une simple charrette, en fait. Donc financièrement, même quand on est mort, en fait, on n'est pas exactement égaux, puisqu'il y a toujours des pratiques un peu différentes. Et puis là aussi, c'était la présence dans la rue, en fait. À la fois, il y avait ces rideaux aux portes des maisons, et puis quand on voyait passer un corbillard comme ça, on savait de quoi il en retournait. Aujourd'hui, dans notre culture, il y a quand même quelque chose qui a tendance à s'effacer, au moins dans ce qui est l'espace public de la rue.
Et une fois cette déambulation de funérailles effectuée, on se retrouve au cimetière. Ici, vous pouvez reconnaître assez facilement, parce que c'est le plus proche de nos cultures, des stèles qui sont chrétiennes, juives et musulmanes, qui sont extrêmement bavardes, puisque finalement, c'est des objets qui racontent aux vivants la vie du mort. C'est ce qui nous permet aussi de garder le lien, de se rendre sur un lieu. Et vous avez aussi, dans d'autres sociétés, exactement le même genre de rapport, mais qui nous est peut-être plus aveugle, parce que nous n'avons pas l'école. Là, vous avez des magnifiques photos à l'OAL, qui viennent de Madagascar. Ils marchent toujours par deux, et il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de poteaux. Ces lettres que vous avez sur les plateaux sont l'affaire aussi d'une rivalité, de virtuosité pour les sculpteurs qui vont les réaliser. Et aussi représente l'activité principale qu'avait le défunt.
Alors, entre Madagascar, la Nouvelle-Guinée, il y a aussi quelques petites incursions bretonnes, avec ici donc, quelque chose qui évoque la cérémonie de la proëla, donc ces rites qui consistaient à remplacer sur l'île d'Ouessant et dans d'autres îles aussi le corps d'un défunt qu'on n'avait pas retrouvé par une petite croix en cire qui était enterrée à la place du mort, en fait. Donc cérémonie qui a été arrêtée dans les années 50 parce que ça posait de gros problèmes à l'Église catholique quand on retrouvait le corps justement du marin que l'on avait déjà enterré une première fois qu'il fallait re-enterrer. Et puis derrière moi vous avez quelques très belles boîtes à crânes qui m'ont été prêtées par Saint-Paul de Léon qui sont aussi une particularité régionale. Il faut dire que les ostuaires, il y en avait beaucoup, il en reste que quelques-uns. C'est aussi une pratique qui continue en fait à se faire. Lorsqu'une concession arrive à échéance, il faut récupérer ce qu'on appelle la réduction du corps. Donc, et puis les ossements sont placés dans une petite boîte et la boîte elle-même est placée dans l'ossuaire.
Si on arrive dans une zone où on évoque ce qu'il faut faire pour avoir une bonne mort, et notamment dans le cadre de la religion catholique, il faut effectivement bien se comporter. Quand on se comporte moyennement bien, mais qu'on a de l'argent, on peut toujours faire appel aux indulgences plénières, c'est-à-dire payer des messes, payer des pardons, des choses comme ça.
Derrière vous, là-bas, les Taolénous, qui sont là aussi une pratique vraiment très régionale. Les derniers ont été réalisés dans les années 1940. Les premiers datent du XVIIe siècle, c'est un missionnaire qui avait mis ça au point pour des gens qui étaient analphabètes. Et donc c'était des tableaux qui indiquaient tout ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc pas faire évidemment la luxure, le vol, la jalousie, etc. Donc chaque tableau présente un des péchés qu'il faut éviter autant que possible pour avoir une bonne mort. Et c'est quelque chose qui a imprégné vraiment la croyance populaire en Bretagne jusqu'à très tardivement.
La visite se poursuit sur le thème de l'après la mort, en passant par l'ankou breton, des figures similaires en Indonésie, l'âme en trois parties chez les Inuits, le regard sur l'enfer porté par l'art naïf, les aborigènes et le rêve des ancêtres primordiaux. Et nous voilà arrivés à la troisième partie de l'exposition sur le souvenir.
Un des éléments que l'on a aussi pensé en tous les cas comme commun à toutes les cultures, c'est un besoin de communication avec les morts. Pour l'Occident, on va évoquer très rapidement le spiritisme et la communication, elle va jusqu'au souvenir, en fait, que l'on éprouve dans notre société à travers des relations qui peuvent être collectives. Bon, là, vous le verrez à travers tous ces objets qui évoquent, en fait, les monuments aux morts. On a mis quelques objets, là, qui évoquent le décès de Lady Di, parce que ça a été vraiment... un décès qui a marqué énormément les gens et dont souvenir continue à être honoré aussi. À Paris même. Et c'est donc une collecte qui avait été faite par le MUCEM à travers des objets assez ordinaires mais qui disent tout l'attachement. Alors une toute autre façon de communiquer avec les vivants ailleurs.
Dans les deux cultures que vous a proposé d'aborder ici, on communique avec l'invisible. Là, on est au Bénin très précisément sur les images que vous voyez avec la cérémonie de l'Egungun. Les Gungun, c'est le costume que vous avez là. Alors, ce qui était important pour nous de retranscrire, c'était vraiment l'idée que là, le son, le costume, la danse du costume, le son, le chant, les litanies sont extrêmement importantes parce qu'on va créer un phénomène de transe. Le chaman ou la personne qui porte le masque va se mettre en transe.
Du Bénin, on part au Mexique, avec sous nos yeux, à présent, un hôtel des morts qui attire le regard avec ses couleurs vives.
Et donc, l'hôtel a été installé à Daoulas avec aussi des personnes d'origine mexicaine qui habitent dans le Finistère, et ici également avec ceux avec lesquels on travaillait. C'est aussi là pour montrer une pratique toujours en cours, donc c'est pas du tout du folklore, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué. Les photographies qui sont à chaque fois associées correspondent aux défunts de l'année, en fait, dans la famille. C'est quelque chose qui continue à se pratiquer dans l'univers domestique de la maison, en fait. On continue à faire un hôtel comme ça, et les enfants y tiennent beaucoup, donc il y a des petites têtes de mort en forme de sucre, on met de la nourriture pour que les morts aient de quoi suivre leur chemin sans être affamés, un petit peu de boisson aussi. Donc c'était intéressant, surtout pour le côté vraiment contemporain encore de la pratique. Alors le lien, le souvenir, etc., on termine un petit peu sur cette idée avec des objets très différents sur le plan plastique, mais qui ont une vocation par contre un peu identique, qui sont les reliquaires. Alors avec ici des petits reliquaires vraiment domestiques qui sont réalisés à partir des cheveux du défunt. Ça a été très très en vogue tout au long du 19e siècle. Il y avait des coiffeurs qui se présentaient comme artistes en cheveux et qui réalisaient donc ces petits cadres avec des mèches de cheveux qui dessinent parfois des scènes. Il peut y avoir aussi la photographie du défunt et souvent une petite dédicace. En fait, ce sont des objets très émouvants. Le bras reliquaire n'était pas présenté à Daoulas et là on trouve que c'est une très belle association en fait pour une vocation identique qui réside dans l'idée de conserver des éléments du corps en fait.
Donc dans le bras reliquaire, il y a un morceau d'os. Donc c'est une pièce d'orfèvrerie assez exceptionnelle qui nous a été prêtée après quelques négociations, on va dire, parce qu'on tenait vraiment à le présenter. Alors aujourd'hui, heureusement, dans les collections françaises, nous n'avons pas les ossements de ces reliquaires, nous avons juste les couvercles, ce qui n'est pas plus mal. Voilà ce que je voulais dire, qu'on avait tenu ici à ne pas faire de sensationnalisme autour d'un sujet qui est la mort, à ne pas être morbide, à bien montrer les pratiques vivantes, comme j'espère on s'est employé à vous le transmettre. On n'a pas exposé de momies, on n'a pas exposé d'ossements, parce que finalement, on n'a pas voulu faire le show avec des éléments physiques qui, pour les personnes issues des cultures qui les pratiquent, sont faits pour rester cachés ou tabous. Vous n'avez aucun objet tabou dans cette exposition. Ce sont des objets qui ont été façonnés par les cultures dont elles sont issues pour servir comme objet magico-religieux, et donc un objet public.
Le corps qui se décompose dans la terre, je trouve un peu ridicule que ce soit dans un cimetière. Je dis toujours, sur l'emplacement où je serai, on mettra des arbres avec des petits fruits pour nourrir les oiseaux.
Thank you.
Les Gotha River Jazzmen avec le morceau Nearer My God to See. C'est un classique du funeral jazz, une tradition funéraire qui s'est développée à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. Vous venez d'entendre ce titre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Vous êtes, je pense, branché sur le 94.0. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur le site canalb.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions d'information locale, mais aussi toutes les autres émissions de la radio réalisées par des salariés et des bénévoles. On poursuit cette émission avec l'interview du jour qui a été menée par Corentin, volontaire en service civique.
Dimanche 17 mars à 11h au parc de Bréquigny se tiendra une course caritative au profit d'Action contre la faim. Je suis avec Bertie et Marie pour annoncer l'événement. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux bénévoles pour Action contre la faim. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'est cette association ?
Oui, alors Action contre la faim, c'est une ONG internationale qui vient en aide aux populations les plus vulnérables partout dans le monde. Donc voilà, on a des missions dans beaucoup de pays. L'objectif, c'est surtout de pallier et de traiter la malnutrition. On a aussi des actions au niveau des infrastructures d'eau et d'assainissement, mais aussi au niveau de la santé mentale, donc il y a pas mal d'actions différentes.
Est-ce qu'il y a vous pouvez donner des exemples d'actions concrètes qui sont menées par l'asso ?
Bah, au niveau des actions menées par ACF, il y a par exemple des actions qui sont menées au Bangladesh pour accompagner les populations à s'adapter au changement climatique. Par exemple, il y a beaucoup de submersions. Donc la terre, il y a une salinité de la terre qui est très forte. Donc l'objectif, c'est d'adapter les cultures à ces nouvelles problématiques et aussi aux problématiques de sous-nutrition que ça engendre. Donc c'est à la fois traiter ces problèmes-là, mais aussi prévenir et sensibiliser pour que la population soit davantage préparée à se confronter à ces problématiques.
Et puis peut-être pour continuer sur la délégation Action contre la faim en Ille-et-Vilaine. Donc en fait, Action contre la faim a des délégations au niveau départemental et ça permet en fait de faire le relais de l'ONG. C'est principalement des actions de sensibilisation, mais on organise aussi là comme Rennes Court contre la faim des événements pour collecter des dons qui servent en fait aux missions sur le terrain pour Action contre la faim.
Vous, en tant que bénévole, vous investissez comment dans l'asso ?
Nous, c'est essentiellement organiser des événements. Donc cette année, on a déjà pu organiser une conférence, notamment pour sensibiliser sur les enjeux de sécurité dans l'humanitaire. On est aussi présent, par exemple, lors des journées comme la Journée mondiale de l'alimentation, où on fait des actions de sensibilisation dans les supermarchés, grandes surfaces. Notamment la course contre la faim, la Rennes Court contre la faim, qu'on a organisée depuis quelques mois, on organise ça. Donc c'est ça essentiellement notre action de bénévole.
Et puis en tant qu'étudiante, vu qu'on a remonté cette délégation en Ille-et-Vilaine récemment et qu'on est exclusivement pour l'instant des étudiantes dans cette délégation, on donne le temps qu'on peut à la délégation. Donc pour l'instant, c'est des actions plus ponctuelles, c'est-à-dire cette conférence, des sensibilisations lors de grandes journées. Et puis l'objectif, c'est que la délégation grandisse, comme dans certains départements où il y a des très gros événements organisés. Donc voilà, on fait ce qu'on peut en termes de temps au niveau du bénévolat, mais l'objectif, c'est quand même de grandir.
Elle est nouvelle, cette délégation d'Ille-et-Vilaine ?
En fait, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été créée il y a quelques années, mais à chaque fois, elle avait du mal à repartir. L'année dernière, elle était présente, mais pareil, il n'y avait pas eu trop d'événements. On va dire que nous, on a essayé de la relancer depuis septembre. Notre envie, c'est forcément que ça se pérennise et que l'année prochaine, elle soit reprise.
Oui, en fait, parce que les étudiants partent souvent l'été, ce qui fait que c'est difficile d'organiser une continuité dans la délégation. Mais c'est aussi pour ça que on appelle toute personne qui a envie de s'engager à devenir bénévole dans la délégation. Dans tous les autres départements, il y a absolument toutes les tranches d'âge. Et donc voilà, toute personne peut s'engager avec le temps qu'elle a et à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre.
Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que ce dimanche à 11h au parc de Bréquigny sera donné le départ de la course contre la faim C'est quoi comme événement ?
C'est une course solidaire. Donc le but, déjà, c'est de faire voir la délégation, bien sûr, et l'ONG, enfin Action contre la faim, et de récolter des fonds. Donc l'intégralité des fonds seront reversés pour financer des missions sur le terrain directement. Le départ de la course, c'est à 11h. C'est une boucle au parc de Bréquigny, c'est 2 km. Le but, c'est de faire le plus de tours. Il y aura des lots pour les plus compétitifs, mais bien évidemment, si vous avez envie de venir courir seulement un tour ou même marcher avec vos amis et tout, vous êtes les bienvenus.
Et puis, oui, pour les personnes qui ne courent pas, on aura aussi un village avec beaucoup d'activités différentes. Pour les 3-12 ans, une chasse au trésor. Et puis un escape game pour les plus grands. On aura aussi un espace de restauration avec des galettes saucisses et des options végétariennes. Et voilà, il y aura aussi Miss Bretagne 2023. Donc Noémie Lebras qui nous fera l'honneur de sa présence pour le lancement de la course.
Du coup, c'est un événement qui va durer tout l'après-midi ?
Donc en fait le départ de la course c'est 11h, la course c'est 1h et après en fait comme l'a dit Bertie, il y a un village, donc si vous voulez venir en début d'après-midi pour manger, pour venir profiter des activités, on fait aussi, il y a aussi une exposition photo, donc oui c'est ça, c'est toute l'après-midi jusqu'à 16h à peu près.
J'ai vu que pour la course il y avait un don minimal de 4€ pour y participer, est-ce que le village est accessible gratuitement ?
Donc effectivement, pour s'inscrire à la course, c'est sur Hello Asso. D'ailleurs, vous pouvez taper dans Google Hello Asso Action contre la faim et vous allez trouver. Le don minimal, c'est 4€ et ça vaut pour inscription à la course, mais vous pouvez venir gratuitement au village profiter des activités.
Et puis, il y aura différentes activités, normalement, à prix libre. L'objectif, c'est que tout le monde puisse participer et on donne absolument ce qu'on peut. Et puis voilà, il y aura une petite contribution aussi pour l'espace de restauration, logiquement.
Pourquoi organiser une collecte de dons sous forme d'événements sportifs ?
Moi, je dirais que l'objectif, c'est de sensibiliser en plus de récolter des fonds. Donc c'est aussi sympathique de pouvoir rencontrer les personnes, nous, en tant que bénévoles d'Action contre la faim, pouvoir faire connaître et en même temps échanger avec ces personnes sur ce qu'est Action contre la faim. Parce que c'est vrai que les sensibilisations sur l'alimentation et l'ONG... ça, c'est une façon de transmettre, mais c'est aussi sympa de pouvoir être une association qui rend d'une certaine manière aux personnes qui donnent, et organiser une course, un moment de rencontre, un espace convivial, c'est aussi une façon de rendre cette contribution aux gens.
Est-ce que si on ne peut pas être présent dimanche, c'est possible d'effectuer quand même un don à Action contre la faim ?
Oui, bien sûr.
Sur le site web d'Action contre la faim, on peut donner. D'ailleurs, on peut effectuer des dons aussi réguliers, donc donner 10, 15 euros tous les mois. C'est une façon aussi de contribuer. Ouais.
Et aussi, faut savoir que quand on fait des dons, il y a possibilité d'une déduction fiscale. Donc, c'est aussi intéressant à savoir...
Est-ce que vous avez des chiffres ou des informations pour pouvoir se rendre compte un peu de l'impact, de l'efficacité que peut avoir un don ?
Oui, bien sûr. Par exemple, si vous donnez 8 euros, ça correspond à un atelier de démonstration culinaire pour apprendre à plusieurs familles à diversifier son alimentation et lutter contre les carences. Je peux donner d'autres chiffres. Par exemple, 25 euros, ça correspond à un kit wash qu'on fournit en fait à 2 familles qui pourront accéder plus facilement à des conditions d'hygiène décentes. Par exemple, aussi 50 euros, ça correspond à un système d'irrigation destiné au maraîchage pour une famille entière. Donc voilà à peu près. Après, sur la page Hello Asso, on a mis d'autres exemples. Donc si vous avez envie d'aller voir, c'est plus détaillé.
Et on donnait tout à l'heure l'exemple du Bangladesh. Ça, c'est des items qui sont distribués. Il y a aussi des sortes de paquets de pâtes à la cacahuète qui sont distribués aux enfants qui sont en situation de sous-nutrition. Et donc ça, c'est quelque chose qu'Action contre la faim finance et qui est absolument nécessaire pour accompagner un enfant dans une alimentation à nouveau normale et pour qu'il guérisse bien et que sa croissance soit normale par la suite.
On imagine qu'Action contre la faim agit essentiellement dans les pays où il y a une malnutrition très forte. Mais est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont faisables dans les pays occidentaux comme en France ? Il y a des choses qui sont faites ?
En fait, ils peuvent aussi donc intervenir dans des zones de conflit, dans des zones où il y a eu des catastrophes naturelles. Et effectivement, ça fait quelques années que Action contre la faim intervient aussi en France, donc notamment en Île-de-France et à Marseille, donc dans la région PACA, je crois que c'est ça.
En fait, il y a déjà beaucoup d'associations qui sont présentes, notamment les Restos du Cœur, au niveau de l'alimentation en France. Mais à partir de la crise du Covid, Action contre la faim s'est rendu compte qu'ils avaient une expertise qui pouvait leur permettre d'accompagner les autres associations en France sur ces problématiques-là. Donc c'est davantage l'action aujourd'hui d'Action contre la faim en France. Et puis, par exemple, effectivement, dans les zones de conflit, comme le disait Marie, par exemple, en Ukraine, au niveau de la santé mentale, des traumatismes qui sont causés par la guerre, c'est aussi une intervention qui n'est pas, comme on le pense, sur l'alimentation directement, mais en fait qui a tout un effet. Par exemple, une femme qui allait ou une mère qui est dans une détresse psychologique, ça va forcément avoir des impacts sur son enfant, donc c'est aussi important. Ouais.
Et donc le champ d'action n'est pas que de la distribution alimentaire, mais il y a tout un tas d'autres choses.
Non, oui. Absolument. Et c'est aussi en amont, comme on disait, pour pouvoir améliorer les cultures avec la population, pour les adapter. Donc le but, c'est pas de fournir de la nourriture directement, c'est qu'à terme, les communautés soient autonomes aussi dans leur manière de se nourrir.
La course contre la faim, ça se passe dimanche 17 mars à 11h au parc de Bricquigny. C'est un événement au profit d'Action contre la faim, association dont font partie Bertie et Marie qui étaient avec moi aujourd'hui. Pour participer à la course, un don minimum de 4€ est demandé et il faut s'inscrire via le site actioncontrelafaim.org. Merci à vous Bertie et Marie.
Merci.
J'achète des tickets à gratter. Je fais des potes à mon travail.
Gwendoline, parce que j'ai rêvé d'être riche. C'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et qu'on retrouve sur un album, C'est à moi, ça, c'est son titre. C'est sorti le 1er mars chez Bombard Records, un 8 titres qui forme le deuxième disque pour ce groupe rennais, mais qui est désormais installé du côté de Brest. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, et avant de se quitter quand même, la recommandation du jour. À chaque fois, en fin d'émission, on termine avec cette recommandation du jour, des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Deux petits conseils aujourd'hui. D'abord, la 4e édition de Roizen Japan, un festival à vivre samedi 16 mars de 10h à 17h30. Cet événement, il est piloté par l'Association culturelle des étudiants du Centre franco-japonais de management, je l'ai dit. Ça se passe à l'école universitaire de management IGM. IAE, qui est située 11 rue Jean Massé à Rennes. Et au programme de cette journée, qui est ouverte au grand public, des concerts, un défilé de cosplay, des conférences, notamment sur les femmes et l'environnement dans les films de Miyazaki, mais aussi des ateliers de calligraphie, d'origami, de cuisine, des démonstrations, par exemple, d'arts martiaux. Et il y aura aussi une expo-vente en compagnie d'artistes et d'artisans. Et surtout, tiens, de quoi manger avec 4 restaurateurs locaux de cuisine japonaise, bien sûr. Le programme complet est à retrouver en ligne sur le site roizenjapan.fr. Deuxième conseil, un festival qui se tient durant 2 jours à Rennes, c'est Rue des Livres, 16e édition, à vivre samedi 16 et dimanche 17 mars au Cadet de Bretagne. On est vraiment à 2 pas du quartier Maurepas. Le samedi, ça se déroule de 10h à 19h et le dimanche, ça termine un tout petit peu plus tôt à 18h. Donc Rue des Livres, qui se veut être la vitrine de la diversité et du dynamisme littéraire local. Ça veut dire que sur place, vous retrouverez de nombreux auteurs, éditeurs, libraires, mais aussi bibliothécaires, médiateurs et évidemment lecteurs. Et la thématique retenue cette année, c'est celle des racines. Une façon d'évoquer les racines familiales, mais aussi les liens à la terre et des récits d'exil et de migration. Le détail de ce festival, qui comprend des ateliers, des expositions et un salon du livre, évidemment, eh bien c'est à retrouver sur leur site festival-rudeslivres.org. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.